Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité, RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie.
Du lundi au vendredi à partir de 8h10 TU.
RFI.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Rossia Dobrivietcher, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Radio Foot exceptionnel, un peu différent, avec un peu de folie parce que...
En finale, on est en finale, on est en finale, on est en finale.
Voilà, c'est le refrain ici comme en France. On a ramené plein de supporters parce qu'il y a plein de Français ici du côté de Moscou qui ont évidemment suivi ce match, qui l'ont évidemment regardé. La France. La France est en finale du mondial en Russie. Victoire des Bleus ce soir à Saint-Pétersbourg. Un seul but, mais le but de la tête de Samuel Umtiti qui a qualifié les Français pour cette finale de Coupe du Monde en battant les Diables Rouges, moins diaboliques au fil des minutes. Ce soir, un Radio Foot donc un peu fou en direct de l'Institut français de Moscou qui nous accueille. Et alors, je pense qu'il n'a jamais vécu une telle nuit, cet institut français, parce que d'habitude, il est fermé. Et ce soir, on nous l'a ouvert. On a ouvert les portes parce que ce soir, on est en...
finale.
Invité, il y a Ali Keïta, notre confrère, qui ici est le correspondant des sports de RFI. Bonsoir Ali.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Vous êtes en finale vous aussi?
Oui, bah, c'est bien parti pour. Hein.
Et puis à vos côtés, il y a aussi une des supportrices. Alors elle, c'est un peu original parce qu'elle est à la fois française et russe. Elle s'appelle Lydia Soutormina. Bonsoir Lydia.
Bonsoir à tous.
Voilà, elle travaille à la Chambre de commerce et de l'industrie franco-russe. Radio Foot à Moscou, c'est parti.
Direction la Russie pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018.
A donc remporté cette demi-finale qui se disputait ce soir à Saint-Pétersbourg, un match joué contre les Belges. On s'attendait à du spectacle, finalement il y a eu un seul but et il est venu assez tard, ce qui a tendu bien la soirée. Camille, racontez-nous votre soirée, comment vous avez vécu ce match? On était un peu tous ensemble, tout à l'heure Yann Sotti était là, c'est lui qui organisait la Yann Zone, pas très loin d'ici, dans un restaurant, et vous y étiez aussi.
Oui, bien sûr, donc nous étions dans cette fan zone et avec tout un tas de Français et quelques Russes aussi qui sont très partisans de la France dans ces demi-finales. Et voilà, on a vécu un match incroyable, extraordinaire, beaucoup de tension, un match maîtrisé par notre formidable équipe, orchestré par Didier Deschamps comme à la coutumée, qui maîtrise totalement ce genre de situation. Beaucoup de crispation vers la fin du match, mais une libération incroyable. C'est une grande joie, on est super content de vivre ce moment en Russie, de le vivre en direct. Et
être français en Russie en ce moment, c'est quelque chose.
Oui, alors déjà c'est vrai qu'à la base les Français sont très appréciés en Russie, mais là en ce moment on sent vraiment une vraie ferveur monter, bon, surtout depuis l'élimination russe en quart de finale, un parcours extraordinaire de leur part aussi. Mais voilà, maintenant que les Russes ne sont plus là, je pense qu'on ressent vraiment... Comme le disait Yann tout à l'heure, un énorme engouement, je pense, pour l'équipe de France, même si effectivement cette équipe belge aussi nous a montré de grandes qualités pendant toute cette Coupe du Monde et a été extraordinaire aussi. Mais je pense que les Russes se réjouissent aussi de voir la France aller loin et je pense seraient très contents qu'on gagne, notamment face aux Croates et aux Anglais. Voilà.
Donc ça sera important dans ce grand et beau stade Loujniki dimanche. Votre prénom ?
Nicolas.
Alors Nicolas, vous, où est-ce que vous avez vécu le match et où est-ce que vous l'avez suivi et de quelle manière ?
Alors nous, on l'a suivi, on était avec Ali et nos amis qui sont derrière moi. On l'avait vécu au Gastropub 31, métro Chabotovska. Et beaucoup de Russes, beaucoup de Français, c'était vraiment incroyable. Avec Ali, on a mis l'ambiance, on a pris le micro et... Il fallait la mettre, hein, il fallait les réveiller, ces Français et ces Russes. Et c'était vraiment un très gros match, plein d'émotions, un peu tendu, mais parce que ça fait longtemps qu'on attend cette finale, 12 ans quand même. Et
oui,
incroyable.
Parce que vous aviez quel âge en 1998 ?
Moi, j'avais 3 ans, donc je me rappelle pas. 3 ans, 3-0, c'est bien, mais
donc
je me rappelle pas beaucoup.
Vous avez envie de vivre à nouveau ce genre de choses ?
Ouais, j'aimerais bien contre les Anglais.
Ouais.
Et en plus, ça vengerait les Russes de l'Euro 2016. Après ce.
Qui avait été éliminé.
C'est ça. Ouais. Et voilà, la France, là. En Russie, j'habite en Russie, c'est incroyable.
Alors, vous, votre prénom?
Moi, c'est Valérie.
Valérie, vous êtes la maman
Je suis la maman, donc je me rappelle comment il y a 20 ans, j'étais avec eux. Il y en avait un qui n'était pas bien grand, l'autre qui était tout petit, qui dormait. Mais j'ai passé la finale il y a 20 ans avec l'aîné.
Ici, en Russie déjà ?
Non, ben, c'était en France.
En France.
Et là, c'est symbolique parce que, bon, en plus, je suis d'origine russe. Être en France, faire le pont entre la France et la Russie. En plus, on a une association qui est très liée au sport puisqu'on a créé un maillot pour la vie ici en France. Donc, avec des sportifs... Et à chaque fois que la France est à l'honneur dans le sport, eh ben c'est super intéressant, c'est super fort pour nous et pour le pont qu'on peut faire entre la France et la Russie.
Alors avant qu'on continue sur le récit de la finale, comment vous l'avez suivi ici, on va prendre la direction des Champs-Élysées. Parce qu'en France, évidemment, le fait d'être en finale a un peu tout fait sortir les gens dans les rues. C'est un peu la folie. On a vu, nous, les images ici à distance. Les Champs-Élysées, il n'y a plus une seule voiture. Il n'y a que des supporters qui sont heureux de la qualification de la France. Et sur cette avenue des Champs-Élysées se trouve une des envoyées spéciales de RFI, Laetitia Farine. Laetitia, est-ce que vous nous entendez ? Qu'est-ce qui se passe autour de vous ?
Alors, je vous entends très bien, malgré beaucoup de bruit ici. Il y a une vraie ferveur populaire ce soir sur les Champs-Élysées. On voit beaucoup de gens avec le drapeau tricolore sur leurs joues, le drapeau tricolore également sur leur dos, les maillots des joueurs de l'équipe de France partout, des coques aussi aux couleurs bleu-blanc-rouge sur la tête. Les gens crient « Allez les Bleus !» Nous sommes en finale. On sent l'odeur de pétards qui ont explosé un peu plus tôt. Il y a vraiment une odeur de pétards ici et une effervescence incroyable.
Qu'est-ce qu'on chante, Laetitia, sur les Champs-Élysées ? Parce qu'ici, on chante, on est en finale, on chante po po po, comme on entendait souvent dans les stades. Qu'est-ce qu'on chante là-bas à Paris ?
Écoutez, on chante un peu de tout, on chante po, 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 po.
Vous chantez bien.
Voilà, écoutez, ça sert comme on peut. On chante Allez les Bleus, on chante Ils sont où les Belges, avec un petit trait d'ironie quand même. Et on chante surtout Allez les Bleus et on est en finale.
Bien, merci beaucoup.
Excusez-moi, on chante aussi la Marseillaise très souvent.
Ah oui.
Et depuis le début du match, pendant le match, après le match, et ça va continuer jusqu'à la fin de soirée.
Bon, donc ça risque de durer sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Laetitia Farine d'avoir été en direct. Vous étiez aussi avec Camille Bietcher et vous êtes toutes les deux sur les Champs-Élysées en train de récolter plein de témoignages qui seront évidemment à écouter sur l'antenne de RFI. Merci beaucoup. Alors on continue. Tiens, je vais d'abord m'adresser à une franco-russe. Lydia, comment vous avez vécu ce match ? Tout à l'heure, on était dans le même lieu, dans la Yann Zone ce soir.
Oui, tout à fait. Donc je suis franco-russe, je suis russe plutôt, et ce soir je suis fière d'être bleue.
Alors je dis pour les auditeurs, vous êtes dans un drapeau français, vous avez
tout à fait,
les trois
les
couleurs sur les joues.
De Russie et de France qui sont de la même couleur, bleu, blanc, rouge pour la France.
C'est un signe peut-être.
Blanc, bleu, rouge pour la Russie, et ce soir on a nos cœurs qui battent au même rythme, comme disaient nos amis français, c'est vraiment la France qui est à l'honneur ce soir. Et moi qui travaille, qui vis aussi avec des Français, je vois cet engouement pour la France, ce support pour la France. Et le 14 juillet, qu'on va fêter toutes et tous ce samedi ici à Moscou, ce sera vraiment aux couleurs du drapeau français, ce sera vraiment aux couleurs du football. Et on sera tous ici à Moscou dimanche pour supporter la France.
Ouais, et c'est vrai que le 14 juillet, là, il aura des allures de... On sera en finale, on ne saura pas encore le résultat, donc on pourra faire la fête. Votre prénom ?
Barthélémy.
Alors Barthélémy, vous avez vécu comment ce match ? Vous étiez là où il y avait Ali, hein ?
C'est ça, donc j'étais avec Ali et mes amis. C'est toujours pareil, c'est des grands moments de stress au début, puis de joie à la fin. Et voilà, on était tous ensemble, c'était ce qui était important. Et on a fêté ça le moment présent, et on va fêter ça encore un petit peu après.
Est-ce que quand la Coupe du Monde a commencé, et que les Bleus ont commencé leur parcours, est-ce que vous y avez cru, ou on sait que la France figurait parmi les favoris, mais est-ce que vous l'avez imaginé, vous, en finale?
On est obligé d'y croire, et il faut y croire, sinon ça n'a plus d'intérêt. C'est voilà, on est derrière son équipe, à la limite qu'on y croit ou pas, et on veut les voir en finale, et donc à la fin on y croit, et on est content quand ils y sont.
On est en finale, on n'oublie pas. Et vous?
Alexandre, moi.
Alors Alexandre,
Alexandre, donc
un prénom russe.
Le frère de, voilà,
le frère de Nicolas.
Mon frère.
Et donc le fils, pareil. Et le fils
de Valérie.
De Valérie.
Voilà. Donc toute la famille est là. Beaucoup d'émotions aussi. Donc j'étais aussi à le bar avec Ali. Un match assez, beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions. Beaucoup moins de buts, du coup, que contre l'Argentine, parce qu'on était aussi dans le même lieu pour voir le match contre l'Argentine. Et donc là, voilà, il y a plus de tensions. Beaucoup de suspense, et jusqu'au dernier moment, on était scotché devant l'écran en attendant de voir ce qui se passe avant d'exulter au coup de sifflet final.
Quels sont les joueurs pour vous qui sont ou qui ont été décisifs dans ce match du côté de l'équipe de France?
Oh, moi, je dirais les 11, hein. Tout simplement, parce que si on n'a pas l'équipe au complet, on peut pas gagner ce match. Donc non, moi je trouve qu'ils ont tous fait un très bon match. Ils étaient vraiment bien dedans. Ils ne sont pas laissés déconcentrer par l'enjeu. Ça, c'était important. Et voilà. Donc j'ai hâte de voir la finale le 15 juillet. Et je suis évidemment derrière eux pour qu'ils continuent à nous produire un beau jeu, et j'espère une belle victoire à la fin.
Alors on va prendre la direction de là où se passait ce soir ce match, et on va rejoindre Eric Mamrut. Eric Mamrut, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Alors Eric, vous étiez au commentaire du match avec Antoine Grenier ce soir. C'est la troisième fois en 20 ans que la France se retrouve en finale. Il y avait eu évidemment 1998, il y a eu aussi 2006, c'était contre l'Italie. Et ce soir, il a suffi d'un but pour que Samuel Umtiti qualifie la France.
Corner pour l'équipe de France dans cette partie, il va être frappé, il est rentrant par Griezmann, il va aller trembler la tête, et le but ! Et le but de Samuel Umtiti ! Le défenseur de Barcelone qui reprend son corner au premier poteau, il a écrasé cette tête, elle est finie dans les filets de Thibaut Courtois. L'équipe de France mène 1-0 dans cette demi-finale. C'est fini ! C'est fini ! L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde 2018 grâce à ce succès 1-0 sur la Belgique. Les Français héroïques, les Français ont maîtrisé cette rencontre après le but de Samuel Umtiti à la 51e minute, et les Bleus sont récompensés après avoir muselé la meilleure attaque de ce tournoi.
Eric Mamrut, c'est ça la définition, le résumé du match, c'est avoir muselé cette excellente attaque de l'équipe de Belgique.
Oui, tout à fait, l'équipe de France aura été un vrai bloc ce soir, infranchissable ou presque. Romelu Lukaku, l'attaquant belge qui avait inscrit 4 buts dans ce tournoi, là, on l'a quasiment pas vu, il a été parfaitement pris. Moi, c'est surtout ce qui m'a impressionné, c'est la solidarité qu'il y avait dans cette équipe française, et puis la force du milieu de terrain. Je crois que ça, c'est là où ça s'est joué véritablement, parce que Kanté, Pogba et Matuidi ont fait un travail extraordinaire. Ils ont bloqué les montées de balles belges, qui du coup ne savaient pas par où passer du tout. Ils n'ont pas su trouver de la profondeur. Et ils avaient 11 guerriers face à eux. Alors c'est peut-être pas forcément génial, mis à part Mbappé qui nous a sorti encore des choses extraordinaires. Mais il y avait une équipe mature, même si cette équipe est jeune. Déjà, qui était impressionnant, c'est qu'elle s'est jamais déconcentrée, elle n'a jamais paniqué, elle a tenu le choc. Et jusqu'au bout, du début à la fin, et le plan de Deschamps, tactiquement, ça a été parfait, on peut dire, de jouer bas et d'attendre les contres. Et bon, ça a été un match serré, évidemment. Mais bon, ça s'est joué sur un coup de pied arrêté, parce que la France n'aura pas réussi à marquer dans le jeu, même si elle s'est procuré pas mal d'occasions. Et c'est aussi la force de cette équipe de France. Il y a Mbappé, il y a Griezmann, mais aussi le défenseur qui marque. Il y avait eu Pavard face à l'Argentine. Il y a eu Umtiti ce soir face à la Belgique.
Ali Keita, est-ce que c'est symbolique pour vous que ce soit un défenseur qui ait marqué le but de l'équipe de France? Parce que si nous on a pu annuler leur bonne attaque, il y avait aussi quelque chose en face, bien sûr, qui faisait peut-être que nos attaquants pouvaient moins s'exprimer.
Alors je vais vous dire une chose, Annie, en fait ce match m'a fait furieusement penser à cette demi-finale qu'on a vue en 2006 en fait entre la France et le Portugal, où Lilian Thuram avait été extraordinaire, et cette fois-ci c'est Samuel Umtiti en fait qui a joué le rôle en fait du sauveur un peu improbable à la fois de 98 et donc de 2006, et parce qu'en fait il marque un but et surtout il a tout repoussé. Et effectivement, ça a été un vrai symbole dans la mesure où l'équipe de France a été très solide, a donc annihilé l'attaque belge et a réussi à marquer ce but si précieux en demi-finale, parce que le but au final c'est de l'emporter. Et malheureusement pour cette équipe belge, je pense qu'elle avait plus de certitude en fait collective que la France, mais cependant la France, et j'ai penser aussi à ces paroles de notre confrère tout à l'heure belge en fait, hein, au micro de RFI, qui disait j'ai peur que l'ADN des bleus, du maillot bleu fasse la différence, ainsi que sur un coup de pied arrêté. Donc c'était des paroles en fait qui se trouvent qui étaient prémonitoires finalement, puisque c'est exactement ce qui s'est passé sur
c'est
ce match.
Un but sur corner, effectivement. Eric Mamrut, on a aussi vu peut-être, alors je sais pas qui a été l'homme du match, parce que dans la folie ambiante on suivait pas tout, mais il y a quelqu'un qui a été extraordinaire dans les rangs bleus, c'était Hugo Lloris, bien sûr, qui a quand même sauvé beaucoup de choses que savaient très bien faire les Belges.
Oui, Golioris, il a effectué encore une fois une parade superbe à la 21e minute, une frappe d'Alderweireld sur laquelle il s'est envolé. Et puis même en fin de match, on l'a vu encore boxer une frappe de Witsel. Mais Thibaut Courtois en face aussi a été extraordinaire. On avait deux très bons gardiens ce soir. Courtois a écarté du pied une frappe de près de Pavard. Il s'est interposé plusieurs fois le portier de Chelsea face aux Français qui auraient pu marquer un autre but, voire deux. Donc, on avait deux très bons gardiens de chaque côté. Ça s'est joué à pas grand-chose. Le réalisme, le français et cette tête d'Umtiti. Une équipe de France, quand même, qui arrivait plus à s'approcher vers les buts de l'adversaire que les Belges. On a vu un Hazard tourner autour de la défense. Il a fait tout ce qu'il a pu, vraiment, Eden Hazard. Il en voulait terriblement, mais il n'a pas réussi à trouver la faille, même s'il a eu une frappe qui, à mon avis, qui partait bien, qui a été détournée in extremis par Varane au-dessus de la transversale de Lloris. Il a tout tenté, mais je sais pas, ça, il manquait à chaque fois un petit quelque chose parce qu'en face, il y avait un bloc.
Cette équipe belge, justement, Ali, elle était très très portée vers l'offensive. Hein, on le savait, c'est ce qu'on craignait le plus. Et on peut dire que Didier Deschamps, c'est le maître tacticien qu'on a vu là s'exprimer à travers ses hommes.
Oui, clairement, parce qu'il y a eu cette tactique en fait, hein, de l'équipe de France qui a décidé délibérément en fait, d'attendre les Belges depuis le camp français et de procéder par contre-attaque, ce qui s'est avéré en fait plus ou moins payant. On a vu avec les accélérations dévastatrices de Mbappé, et je pense que ce soir il a beaucoup manqué la qualité de centre et de débordement d'un joueur comme Thomas Meunier sur le côté droit, puisqu'il a été remplacé numériquement par Chadli. On sait que ses qualités, c'est plus un joueur de ballon qui n'a pas la vélocité en fait et la capacité de déborder, et ce soir il a cruellement manqué donc Thomas Meunier sur le côté pour apporter ses centres vers Romelu Lukaku notamment. Et en tout cas, la Belgique n'a pas déjoué, a fait son match. Malheureusement, elle est tombée sur une équipe de France ce soir très costaud, très solide, et paradoxalement, qui la joue à l'expérience, ce qui est paradoxal puisque c'est une équipe qui est finalement très jeune.
Oui. Éric Mamrut, avant de vous libérer, un dernier mot sur cette embrassade qu'on a vue au début du match, parce que évidemment, on se disait que il y avait deux hommes dans ce match qui étaient des anciens champions du monde il y a 20 ans. On avait Didier Deschamps, le sélectionneur français, et en face, on avait l'adjoint qui était Thierry Henry, et on a vu cette belle embrassade de Thierry Henry qui est allé vers Didier Deschamps et même vers tout le banc français.
Oui, à la fin du match, ils se sont congratulés, hein, Deschamps et Thierry Henry. C'est vrai que c'est une situation particulière de voir Thierry Henry dans le camp d'en face. Thierry Henry qui coach depuis deux ans les attaquants belges, mais bon, il n'a pas réussi à porter sa touche pour percer la défense française. Et puis bon, après, coup de chapeau à Deschamps quand même, qui réussit son coup, qui porte l'équipe de France en finale. Et bien après l'Euro, c'est la Coupe du Monde, trois finales de Coupe du Monde sur six éditions. Bon, c'est pas que grâce à Didier Deschamps, mais pour l'équipe de France, c'est le meilleur total pour une nation. Donc l'équipe de France quand même devient de plus en plus une nation majeure du football mondial. Cette fois-ci, c'était peut-être un peu inattendu, parce qu'on disait que la France irait en quart, voire en demi. Une finale avec cette jeune génération, c'est quand même un résultat incroyable, et c'est peut-être pas fini, parce que vu ce qu'on a vu durant ce tournoi, et surtout ce soir, parce que c'était vraiment pour moi le gros test face à la grande équipe de Belgique, elle peut, pourquoi pas, soulever le trophée dimanche.
Camille, comment vous avez vu, vous, ce match sur le plan justement plus tactique et plus sportif de la part de l'équipe de France?
Alors, comme le disait très justement Mali, effectivement, la France a attendu, c'est le génie de Didier Deschamps et sa stratégie, ils ont attendu pour mieux se projeter vers l'avant à la récupération du ballon. Moi, ce que j'ai vu, c'est une qualité exceptionnelle à la récupération du ballon pour passer des 20-25 premiers mètres jusqu'au milieu de terrain dans les phases de contre-attaque. J'ai vu aussi, on n'en a pas encore parlé, mais un Matuidi extraordinaire aujourd'hui, vraiment qui a fait un match incroyable.
Oui, c'est ce que disait Eric sur en parlant
incarne,
de ce milieu de
je
terrain.
Je trouve à merveille toute la réussite de Deschamps, parce que c'est vraiment l'homme de Deschamps. Il n'était pas titulaire au début de cette Coupe du Monde. On a vu ce qui se passait quand il était pas là. On voit ce qui se passe quand il est là. Et ben, jusqu'à dans sa chair, hein, parce qu'on a vu le choc extrême qu'il y a eu à la fin. J'espère que
c'est lui qui est sorti effectivement sur un choc terrible. Voilà, il en a eu déjà deux. Pendant le match, d'ailleurs, on a vu.
Donc j'espère que c'est pas trop grave. J'espère que on n'a pas trop de nouvelles pour l'instant, mais j'espère que pour la finale il pourra jouer. Mais voilà, je tenais vraiment à tirer un gros coup de chapeau à Matuidi, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et après, bon, bah, la qualité de la solidité de notre équipe, le bloc équipe, comme vous l'avez dit, et bien sûr Mbappé qui est extraordinaire.
Éric, vous avez des nouvelles de Blaise Matuidi. Faut-il être inquiet selon vous?
Non, on n'a pas de nouvelles encore. Les joueurs tardent apparemment, d'après Antoine Grenier qui est en zone mixte, ils tardent à sortir. Ils doivent fêter pas mal la qualification, ouais. Évidemment. Après
allez-y.
Matuidi, bon, il est sorti un peu en boitillant, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup donné dans cette partie. À mon avis, il en avait un peu plein les chaussettes, il a été un peu bousculé. Bon, à mon avis, il sera bien pour dimanche. De toute manière, il était le temps d'apporter à ce moment-là de la partie du 109, et Tolisso a bien fait ça. Il a même été dangereux, il a failli marquer un but de l'autre.
Nicolas, comment vous avez vu ce match sur le plan tactique et sur l'évolution finalement, parce que le but vient, je sais pas s'il vient trop tard ou trop tôt pratiquement, parce qu'il arrive à la 51e minute. Après, on se dit où il faut en marquer un deuxième, où il faut tenir.
C'est vrai que ça a été compliqué. On pensait que l'équipe de Belgique avait les qualités pour revenir au score, et c'est vrai que c'est vaut mieux toujours en mettre un deuxième. Moi, ce que j'ai adoré, c'est de voir les attaquants défendre, Giroud défendre, même s'il était pas en très grande réussite malheureusement sur le plan offensif, mais il est venu faire les efforts pour défendre. On voit Pogba qui défend, on voit ce groupe qui s'est formé, et ça, c'est vraiment incroyable, même si on n'arrive pas à mettre plein de buts, mais c'est un but, ça suffit. On voit le défenseur qui marque, C'est tout est les efforts collectifs et là j'ai plus trop de voix parce que les efforts aussi sont pour les supporters et c'est incroyable, c'est ce groupe qui s'est fait tout au long de la Coupe du Monde qui s'est formé et voilà, c'est que du bonheur.
Ouais. Ali, justement sur cet engagement des joueurs, on a vu effectivement des efforts colossaux. Et puis il y a aussi le coaching gagnant de Didier Deschamps. Hein. Quand il change, alors il le fait assez tardivement, mais il le fait à un moment important.
Oui, clairement, quand il fait rentrer un joueur comme Nzonzi, qui a été très utile, notamment donc sur les phases arrêtées défensives, puisqu'il a repoussé plusieurs ballons de la tête. Et puis, effectivement, il y a cet effort, on a senti cet effort collectif de tout le groupe, et puis surtout un langage corporel, un body language, hein, des joueurs, on les voyait s'invectiver, Matuidi, même Griezmann, dans ce rôle-là qu'on ne lui connaissait plus ou moins pas, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui propulsait les Bleus et qu'ils étaient un petit peu intouchables en fait ce soir. Et je pense que la Belgique peut se montrer frustrée, mais en même temps, ils sont tombés sur un adversaire très très coriace et très costaud ce soir.
Oui. Eric, les Belges à la fin du match, j'imagine qu'il y avait un énorme abattement visible sur la pelouse.
Oui, évidemment, ils se sont abattus parce qu'ils pensaient que c'était peut-être la bonne là quand même pour eux, cette fameuse génération dorée dont on dit qu'elle, dont on lui promet mon émerveille, elle avait déçu à l'Euro en se faisant éliminer en quart de finale par le Pays de Galles. Elle s'était arrêtée au même niveau en quart à la Coupe du Monde 2014, battue par l'Argentine de peu, 1-0. L'Argentine future finaliste, et on se disait bon, cette fois ça va passer. Et puis elle avait fait un parcours extraordinaire jusque-là, 5 victoires, c'est la seule équipe à avoir gagné tous ces matchs, une formation invaincue depuis 24 rencontres, depuis septembre 2016, et une équipe qui avait battu le Brésil. Donc on se disait, c'est bon pour eux, ça va passer, ils méritent, et ils sont a priori plus forts. Alors donc la déception forcément était lourde de leur côté. Il y a notamment Thibaut Courtois, un petit peu amer, qui a un petit peu critiqué le jeu de l'équipe de France. Pour lui, bien les Bleus n'ont pas montré grand-chose. Ils ont fait que juste descendre et marquer sur un coup de pied arrêté. Donc il était un petit peu désolé. Bon, il est un peu mauvais perdant, c'est normal, parce que l'équipe de France n'a pas fait que ça. Mais bon, c'est vrai que les Belges doivent être vraiment très, très amers ce soir.
Et Eric, une dernière chose, si les joueurs tardent à sortir du vestiaire, c'est peut-être aussi parce que il y a quelqu'un qui est allé les féliciter ce soir, qui les avait mis au défi d'arriver en huitième de finale pour venir les encourager dans un stade de Russie. Et ce personnage, c'est le président de la République, Emmanuel Macron.
Bah oui, bah, de toute manière, un président de la République, il peut recevoir un petit peu les lauriers, il va pas se priver, donc effectivement il doit être dans les vestiaires. Après, je n'étais pas dans l'intimité de ce vestiaire pour voir ce qui s'est passé, mais forcément, de toute manière, quand vous remportez une demi-finale de Coupe du Monde, vous prenez votre temps dans les vestiaires, vous faites la fête, vous communiez et n'êtes pas pressé de sortir. Et de toute manière, durant cette Coupe du Monde, les équipes toujours ont pris leur temps pour aller voir la presse. On voit souvent les Anglais aussi en demi-finale qui mettent 2 heures avant de sortir de leur vestiaire. Donc bon, on peut pas être étonné que ça traîne souvent en demi-finale.
Merci beaucoup Eric Mamru d'avoir été en direct avec nous de Saint-Pétersbourg. Et bon courage à vous et à Antoine Grenier. Et vous attendez les Belges alors finalement? Vous restez avec les Belges du moins?
Moi, je reste à Saint-Pétersbourg, effectivement, c'est une belle ville, donc je vais pas me plaindre, pendant que d'autres commencent une finale de Coupe du Monde, mais c'est assez bon côté. De manière, on a vu un beau match, même s'il n'y a eu qu'un but ce soir, c'était un match animé, quand même beaucoup d'intensité, on a vu de belles choses, et ça valait vraiment la peine, quoi.
Merci beaucoup.
on est en finale, on est en finale, on est en finale. On est en finale.
Alors on peut pas l'oublier qu'on est en finale, mais quand on va être en finale, eh bien il va falloir jouer un dernier match. Hein. On sait qu'une Coupe du Monde c'est 7 matchs, si je me trompe pas, et le 7e, eh bien ce sera dans le stade de Loujniki. Le stade Loujniki, vous y êtes déjà allé, Nicolas?
J'y suis allé avant qu'il soit refait, il y a quelques années. Là c'est vrai qu'il est beaucoup mieux. J'y suis allé pour le on va dire la purge France-Danemark.
Ouais, mais vous pouvez le dire maintenant.
C'était, l'ambiance était extraordinaire. C'est vraiment, il est magnifique ce stade. On est près du terrain, etc. Et on va voir si je retourne pour la finale.
Alors justement, la finale, qui sera l'adversaire des Bleus? Alors, les Bleus, eux, ont joué sans savoir qui serait leur adversaire. Eh bien, demain, il y aura un stade, un match qui sera retransmis aussi sur RFI. Ça sera Angleterre-Croatie par Christophe Jousset et Olivier Pron. Olivier Pron qui est en ligne avec nous. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Vous allez bien?
Olivier Pron. Olivier Pron, on vous attend. Vous êtes pourtant pas très loin géographiquement, mais c'est vrai que après, on vous entend. Ça y est, on vous entend, Olivier. Très bien. Et vous, est-ce que vous avez crié, chanté, vous aussi?
C'est vous dire si l'amertume est encore bien.
Bon, alors vous avez des bons souvenirs. Olivier, si vous nous entendez bien, nous on vous entend un tout petit peu mal. On vous rappelle tout de suite.
Alors attendez,
on vous rappelle
d'ici
un instant. On va avoir un adversaire, on ne sait pas encore qui ça va être. Alors Camille, entre l'Angleterre et la Croatie, qu'est-ce que...
Alors, je crois avoir un petit peu compris ce qu'a dit votre collègue, c'est il parlait de la Croatie et notamment le fait que ça évoquait chez eux un mauvais souvenir. Je peux en parler d'expérience personnelle parce que j'ai passé pas mal de temps ici avec un supporter croate qui est allé voir Croatie Argentine et qui n'a fait que me parler de Lilian Thuram pendant plusieurs jours.
Alors rappelons-le, 1998, c'est demi-finale France Croatie.
France Croatie où Thuram marque deux buts après avoir
les deux
été
seuls buts
un
sous
tout
le maillot
petit peu
des
fautif,
Bleus.
Voilà sur deux buts, alors surtout le deuxième extraordinaire qui sort de nulle part. Et effectivement, pour avoir pas mal passé de temps avec des Croates ici, par ailleurs, ils sont absolument traumatisés par ce match. Donc pour eux, ils ont vraiment une revanche à prendre vis-à-vis de nous. Donc clairement, ils nous attendent de pied ferme si on les retrouve en finale. Et ils ont une équipe extraordinaire. D'ailleurs, je pense pour moi le favori de cette Coupe du Monde, un des grands favoris depuis le départ. L'Angleterre, eux, c'est un peu la surprise parce qu'ils sont une équipe assez jeune, un peu inexpérimentée. Ils marquent beaucoup sur coup de pied arrêté. Ils ont un gardien qui est extraordinaire et haut niveau. Et donc ça fait une finale qui sera relativement ouverte demain, même si les Croates restent favoris. Dans tous les cas, je pense que Didier Deschamps, comme d'habitude, saura trouver la solution
la clé pour nous
amener au Nirvana. Voilà, merci Deschamps.
Olivier Pron, on vous a retrouvé et je pense que là, la communication téléphonique doit être meilleure.
Oui, bah alors si vous n'êtes pas connecté avec les moyens modernes, moi j'y suis pour rien. On est revenu au téléphone maintenant.
Tout le monde vous entend. On vous entend bien, Olivier. Alors racontez-nous, parce que tout à l'heure, vous avez eu la chance d'aller écouter les sélectionneurs de l'Angleterre et de la Croatie. Et quels sont ceux qu'est-ce qu'ils vous ont dit et quelles impressions ça vous a donné?
La chance, Annie, comme vous y allez. Vous savez bien que c'est un exercice obligé de la conférence de presse et qu'on ne peut pas appeler ça vraiment une chance. Ces gens-là viennent et en général, et on peut les comprendre, pas grand-chose de vraiment décisif
cache
à nous dire. Gary Southgate, quand même, est un bon client. Gareth Southgate, je dois dire, ça fait maintenant, ce sera le deuxième match pour moi avec les Anglais, puisque j'ai commenté leur quart de finale avec Eric Mamrut. C'est vrai que lui, il se livre un peu, et vous l'entendrez demain sur nos antennes. Et c'est vrai que, voilà, on a bien compris quand même chez les Anglais, il y a quand même un vrai danger. Ils ont réussi leur Coupe du Monde. C'est en fait, consultant là sur le plateau, votre invité l'a bien dit, c'est l'équipe surprise dans ce dernier carré. Personne ne les attendait à ce niveau et encore moins le peuple, le pays. Début juin, vraiment, ils étaient même raillés. Et puis le miracle s'est produit. On en a parlé, 20 millions, 24 millions de téléspectateurs pour regarder huitième de finale et quart de finale. Donc ils ont réussi leur Coupe du Monde. Alors, a priori, ils jouent sans pression. Et ça, c'est toujours un danger pour l'adversaire. Mais quand on entend Gary Southgate et qu'il fait le bilan de cette Coupe du Monde, on a l'impression que demain, c'est le dernier match, quoi. Finalement, bon, ben bah, voilà, on a... Alors, voilà, il y a un danger quand même de se dire, de sortir un peu de ce match maintenant. Quand on est joueur de foot et qu'on joue une demi-finale de Coupe du Monde, a priori quand même, si on n'est pas présent à ce rendez-vous-là, c'est qu'il faut rentrer chez soi.
Ouais, la sensation d'avoir accompli son devoir. Ali, comment vous est apparue cette équipe d'Angleterre? On se posait beaucoup de questions. On sait que l'Angleterre, c'est souvent cette étiquette d'outsider. Et puis là, les tirs au but qui leur étaient souvent fatales cette fois-ci, ils avaient le gardien qu'il faut. Comment vous paraît cette équipe d'Angleterre?
Alors moi, j'ai l'impression que cette équipe d'Angleterre n'a pas encore été vraiment, vraiment testée et poussée dans ses derniers retranchements. Parce que c'est vrai que, bon, par exemple, ils ont fait l'impasse sur le choc qu'ils avaient en poule contre la Belgique, et puis après ils se sont retrouvés contre une équipe de Colombie plus ou moins diminuée sans James Rodriguez. En quart de finale, la Suède était, on va dire, au bout, en bout de course, hein,
au bout du rouleau.
Et puis là, ils se retrouvent en demi-finale. Déjà là, on monte de niveau avec la Croatie en demi-finale. On va savoir ce que cette équipe a dans le ventre. Et comme le disait très bien Olivier, c'est vrai que d'un côté, ils sont sans pression, donc ils peuvent jouer libérés. Ces équipes-là sont plus que dangereuses dans ce genre de situation. Et puis d'un autre côté, s'ils sont déjà avec les tongs au pied, ça risque d'être compliqué demain contre les Croates. Hein, donc à voir. C'est un peu imprévisible au niveau de l'Angleterre. On ne sait pas trop ce qu'ils vont nous réserver comme surprise demain.
Alors Olivier, ça c'est pour ce qui est de l'Angleterre, avec quand même leur grand buteur, hein, Harry Kane, le joueur de Tottenham. Et puis il y aura les Croates. Alors les Croates, tout à l'heure Camille le disait, il y a ce traumatisme du match de 1998 et des deux buts de Lilian Thuram. Cette fois-ci, on a une équipe. La question qu'on peut-être se poser, elle a disputé les deux derniers matchs en allant au bout du bout, c'est-à-dire au bout du temps réglementaire, au bout des prolongations et en plus au bout des pénalties. Est-ce qu'elle peut demain montrer un signe d'essoufflement face à l'Angleterre?
Ah, ça c'est la grande interrogation, mais là encore, vous êtes en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ce pays a 4 millions d'habitants. Cette génération est une génération aussi qu'on pourrait appeler dorée, avec des joueurs fabuleux. Vous écouterez demain la présentation du match sur nos antennes que fait Christophe Jousset, et il dit il y a un buteur d'un côté, Harry Kane chez les Anglais, il y a un artiste de l'autre, et tout le monde est d'accord pour dire que Luka Modric est un artiste. Si les Croates sont à leur niveau, je ne vois pas comment les Anglais peuvent espérer. Voilà, c'est l'équipe surprise. Les Anglais, ils ne nous ont pas franchement emballés depuis le début. Face à la Suède, il l'a très bien dit Ali, les Suédois étaient au bout du bout. Demain, si les Croates sont à leur niveau, notamment technique, et d'après nos indiscrétions, ils vont tout faire pour renforcer le milieu de terrain, pour aller justement chercher les Anglais et les empêcher de construire quoi que ce soit, normalement, les Croates devraient passer. Mais après, tout ça va dépendre de l'état de fraîcheur. On a vu que Subasic avait été en souffrance à la fin du quart de finale. On a vu des joueurs fatigués. Maintenant, encore une fois, c'est une demi-finale. 20 ans après, je suis à peu près sûr que tout traumatisé qu'ils sont depuis 20 ans, ils ont bien envie d'aller rechercher les Français en finale.
Ouais, sans doute, Ali, la finale, pour eux, ça serait aller encore plus loin qu'en 1998.
Oui, quitte à être en finale, autant la gagner. Et puis ils jouissent vraiment d'une ferveur. Moi, j'ai croisé des supporters croates, notamment pendant le match Croatie-Nigeria à Kaliningrad, qui poussent derrière leur équipe, qui sont très très motivés. C'est un petit pays, mais en tout cas, et une nation jeune. Mais en tout cas, ils sont très 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 passionnés par le football et très motivés à l'idée de faire des
choses. Cette qualité du football que présentait le football de l'ancienne Yougoslavie.
Bien sûr, de l'ancienne Yougoslavie, effectivement. Mm. Oui. Donc vraiment, s'ils vont en finale, ce sera. Je préférerais sincèrement que la France joue l'Angleterre plutôt que la Croatie en finale entre nous. Hein.
Olivier, et vous pensez que quel serait le meilleur adversaire pour la France?
Mais moi, je suis une brêle finie pour les pronostics, ma bonne dame. Moi, je ne voyais
moi
pas
aussi.
La France en finale, et pourtant, je savais que j'allais la commenter, cette finale. Alors, c'est la cerise sur le gâteau, rendez-vous compte. Donc, je peux vous faire, non, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je préférerais. La France est en finale, quel que soit l'adversaire, il sera bon à prendre. Et voilà, les Croates sont sans doute, c'est l'équipe qu'on a envie de voir en finale face à la France. Après, si c'est l'Angleterre, compte tenu de nos antécédents avec nos amis anglais, ça promet aussi pas mal.
On est en finale, hein, n'est-ce pas, Olivier? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On est en finale. Parce qu'on est au final.
On est en finale.
On peut dire qu'on est en finale.
On est en finale.
Il va falloir la
Il y a une chaude, il y a une chaude ambiance dans le studio de Radio Foot. Olivier, une dernière chose, justement, vous parliez de fraîcheur, fraîcheur physique. Les Français auront un jour de repos de plus. C'est sans doute pas négligeable.
Oui, c'est sûr que c'est pas négligeable, encore une fois, vu l'état dans lequel étaient les Croates à la fin de leur quart de finale. Maintenant, encore une fois, maintenant, il y a des staffs, un staff médical qui sait faire, on sait faire de la récupération, on est galvanisé. Voilà, ça sent l'écurie quand même, ça sent aussi les vacances, et il y a un trophée à aller chercher. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses pour se motiver. L'essentiel, c'est qu'elle soit belle, cette finale, qu'on y ait des buts et qu'on se régale à la regarder et à la commenter.
Et bon. On compte sur vous, Olivier, puisque vous y serez dans cette finale. Et on l'écoutera évidemment sur RFI. Merci beaucoup à vous d'avoir été en direct de Moscou, là-bas, un peu plus loin que l'Institut avec nous. Merci.
Mais je vous en prie, il y a beaucoup moins d'ambiance à Moscou que dans votre studio, hein.
Oui, mais on a fait exprès. Merci beaucoup, Olivier. Parce que nous, ici, on continue. On saute.
Français.
Hey, alors,
qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Hey.
Nicolas, dites-nous vous pour les ce qui est des adversaires, lequel vous pensez qui serait le plus entre guillemets abordable pour cette équipe de France?
Le plus abordable, je sais pas. Moi, j'aimerais bien combattre les Anglais. Avec la rivalité qu'on a avec eux dans le rugby aussi, donc c'est
France-Angleterre, effectivement, on a plus l'habitude c'est un match de rugby.
Et c'est vrai que la Croatie fait peur entre guillemets, mais bon, ça reste une finale, n'importe quel adversaire est peut-être redoutable et il faudra se donner à 200% pour ce match et voilà.
Alexandre.
Moi, je pense que peu importe l'adversaire, ça va être surtout dans la tête des Bleus que ça va se jouer dans la finale. Voilà, s'ils partent en se disant qu'ils l'ont déjà gagné, ils vont la perdre. Quoi. C'est le piège, c'est que là, c'est d'avoir battu l'équipe qui paraissait de prime abord la plus compliquée à aborder, la Belgique. L'avoir battu en demi-finale, du coup, ça a fait engranger de la confiance, certes, mais du coup, on peut se dire que le plus dur est derrière nous et que du coup, on a déjà un pied trois quarts avec la coupe dans les bras. Donc voilà, c'est un peu le risque, voilà, que je trouve qu'il y a avec cette configuration là.
Ils sont quand même pas trop déconcentrés entre l'Argentine, l'Uruguay et la Belgique. Ali, on a senti quand même que le mental est quelque chose de très fort dans l'équipe de Didier Deschamps.
Exactement, mais après c'est vrai qu'il y a un problème qui est très français aussi. C'est que on a l'habitude en fait de battre les équipes favorites en quart ou en demi-finale et puis après de trébucher sur la dernière marche. Par exemple là pour moi on a battu l'équipe de Messi, on a battu ensuite l'équipe la plus entre guillemets chiante à jouer qui est l'Uruguay, on a battu le favori en tout cas la meilleure équipe en tout cas qui était la Belgique et arrivé en finale on est capable de perdre contre l'Angleterre. Parce qu'on a le statut plus ou moins de favori, cette étiquette, et de pas assumer. C'est pareil en rugby aussi quand on bat les All Blacks et qu'on perd contre l'Australie en finale. Ouais. Donc, méfiance.
On se souvient de 2016, mais c'est peut-être ça qui donnera de la force à l'équipe de France. Lydia.
Donc justement, il faut pas être trop confiant. C'est la finale, c'est ici que ça se joue, mais quand même, il y a plus le Portugal. Ronaldo, il est parti. Il y a plus l'Argentine. Messi, il est parti. Il faut le comprendre, mais il faut aller jusqu'au bout. Et je suis confiante et je suis 100% pour les Bleus.
Alors Lydia, racontez-moi, il y a une jolie histoire que vous pouvez nous raconter avec Nicolas, c'est celle de l'opération qui est menée ici, qui s'appelle « Un maillot pour la vie ». On sait par exemple que Kylian Mbappé a annoncé avant le début de la compétition qu'il donnerait toutes les primes de match à des associations, ce côté caritatif important. Vous ici, vous faites aussi une opération pour quelque chose.
Ce samedi justement, pendant la journée France, le 14 juillet, on organise avec l'ambassade de France, avec l'Institut français et notamment avec Un maillot pour la vie, une opération, une tombola caritative avec deux maillots qui sont signés par Thierry Henry et par Antoine Griezmann, dont un est porté par Nicolas en ce moment, mais l'autre sera encadré pour samedi. Et donc justement, le 14 juillet, c'est une fête pour tout le monde, mais c'est aussi une occasion pour donner la chance aux enfants qui n'ont pas peut-être des moyens pour voir de leurs propres yeux des jeux, de rencontrer des équipes. Et c'est un maillot pour la vie qui leur donne cette chance. Et nous, à la Chambre de commerce Franco-Russe, on est ravis de nous y associer, de pouvoir donner cette fête de football, donner cette chance aux enfants. Nicolas peut-être en dira un peu plus.
Nicolas, oui, ce maillot pour la vie.
Alors, maillot pour la vie qui a 18 ans en France, avec plus de 7000 sportifs qui sont passés voir les enfants malades, dont Zidane, Thierry Henry, Will Thorpe, qui est venu aussi en Russie. Donc, tout sport, Laura Flessel, qui est maintenant ministre des Sports. En Russie, 3 ans. Et là, c'est vrai qu'on fait cette opération. Le sport amène quelque chose de si particulier pour les enfants. C'est l'espoir, le rêve. Et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et les affaires des sportifs, les maillots, etc., c'est symbolique, c'est un instant gravé dans l'histoire, porté à un match. Et si ça peut permettre de récolter des fonds pour ensuite réaliser le rêve des enfants, c'est formidable.
Ouais, belle opération donc qui sera menée ici à Moscou samedi. Pour terminer, j'aimerais que vous me racontiez tous un peu à tour de rôle, comme on a fait tout à l'heure, où est-ce que vous allez suivre la finale ? Est-ce que vous serez au stade ?
J'aimerais bien.
Vous avez entendu
les dernières informations.
Et oui, parce qu'il y a effectivement, selon les supporters, la FIFA remet des places en vente, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Ouais. Et donc, vous aimeriez être dans le stade
Ah, bah, une finale de Coupe du Monde, entre guillemets, à la maison, c'est une fois dans une vie.
Donc ça serait l'opportunité pour vous d'aller au stade.
C'est ça. Surtout si on peut la gagner, la soulever.
En famille
ici.
En famille, Alexandre, c'est ça ?
Ah bah, ce sera avec grand plaisir, ouais, je dirais pas non.
Hein. Ouais. Vous avez vu déjà d'autres matchs de cette Coupe du Monde ?
On a vu France-Australie, on est allé voir France-Australie à Kazan.
Oui.
Du coup, donc ça nous a permis à la fois de découvrir la ville et de voir un peu comment la Russie avait organisé cette Coupe du Monde. Et bon, j'ai été agréablement surpris, quoi. Je trouve qu'ils ont vraiment façonné la Russie sous ses meilleures couleurs pour la rendre la plus agréable et pour les différents supporters des différents pays. Voilà, tous les supporters que j'ai rencontrés, ils étaient vraiment ravis d'avoir eu la chance de venir en Russie. Je trouve que ça donnait vraiment une très belle image du pays au niveau international, quoi.
Lydia ?
Moscou, c'est ma ville natale. La Coupe du Monde à Moscou, en Russie, c'est une fois dans la vie. Évidemment, j'aimerais bien être au stade. J'espère que ce sera possible et j'espère surtout que ce sera l'équipe de France à gagner cette Coupe du Monde. J'aimerais bien y être témoin.
Vous emmènerez votre drapeau français ?
Évidemment.
Il vous quitte pas, ce drapeau, c'est ça. Alors, cette demi-finale a été gagnée par l'équipe de France. Eh bien, on va réécouter le moment important de cette demi-finale. Et c'était à la 51e minute.
Corner pour l'équipe de France dans cette partie. Il va être frappé. Il est rentrant par Griezmann. Il va aller trouver la tête. Et le but de Samuel Umtiti, le défenseur du FC Barcelone qui reprend ce corner au premier poteau. Elle est croisée, cette tête. Fini dans les filets de Thibaut Courtois. L'équipe de France mène 1-0 dans cette demi-finale. C'est fini. L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde 2018. Grâce à ce succès, 1-0 sur la Belgique. Les Français, héroïques, les Français ont maîtrisé cette rencontre après le but de Samuel Umtiti à la 51e minute. Et les Bleus sont récompensés après avoir muselé la meilleure attaque de ce tournoi.
On est en finale.
Évidemment, l'équipe de Radio Foot est aussi en finale. Pour vous, chers auditeurs, à travers le monde, on est en finale. Et dimanche, eh bien, on entendra le stade Loujniki de Moscou. On entendra ça, bien sûr. De gloire. Ouais. Ce Radio Foot International présenté depuis Moscou, l'Institut français qui a bien voulu nous recevoir ce soir pour cette émission spéciale qui commémorait donc la qualification de l'équipe de France pour sa 3e finale en 20 ans. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Médard Chablaoui. Merci à Denis Chastel. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à Paris, aussi à la technique. Guillaume Ploquin, David Finzel, Cyril Etienne, Dominique Fian et Ali Keïta. Merci.
Ça avait été super.